France Info.
La politique jusqu'à 9h sur France Info. Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Gilles Bornstein avec vous et notre invité, député Les Républicains de Charente-Maritime.
Bonjour Dominique Bussereau.
Bonjour à vous trois.
Devine qui vient dîner ce soir.
Devinez qui vient dîner ce soir. Vous, mes vieux, quand vous le saurez, vous n'en reviendrez pas.
Voilà, c'est Gilles Dreux qui chante ça.
Ah oui, je m'en souviens.
Pourquoi avons-nous choisi d'ouvrir cette émission ?
Ça, c'est votre aspect Pyrénées-Atlantiques, Jean-Michel Apathy, c'est votre tropisme berouiste.
Alors, c'est plutôt jupéiste.
Bérou, c'est demain.
Mais ce soir, vous organisez avec Jean-Pierre Raffarin, Valérie Pécresse et Benoît Paru un petit pot d'amitié. Les amis d'Alain Juppé seront là. Et pourquoi seront-ils là ? Si on a bien compris, c'est parce qu'ils sont un peu énervés de voir qu'autour de François Fillon, il n'y a que les amis de Nicolas Sarkozy qui prennent toute la place.
Non, je crois que c'est vous qui êtes énervé en disant cela. D'abord, ouais. Jean-Pierre Raffarin ne sera pas là, parce qu'il accompagne le Premier ministre Bernard Cazeneuve en Chine.
Mais il fait partie des organisateurs.
Il fait partie des organisateurs, de ceux qui ont invité. C'est surtout Valérie Pécresse qui a lancé les invitations. Bon, c'est pas un dîner de conspirateurs, c'est pas le dîner de quelques députés en bagarre comme il y a 15 jours. C'est simplement celles et ceux qui se retrouvaient tous les mardis matins depuis un an, depuis le début de l'année 2016 autour d'Alain Juppé, qui se retrouvent pour faire le point, pour voir comment va la campagne, ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire.
Parce qu'on vous demande pas grand-chose.
C'est un dîner à valeur positive.
Parce qu'on vous demande pas grand-chose.
Ça c'est pas vrai. Oui, moi je mouille ma chemise, j'ai fait des réunions comme tous mes petits camarades à travers la France. J'étais dans le Rhône la semaine dernière. J'ai fait une réunion chez moi à Saint-Palais-sur-Mer en Charente-Maritime. J'en ai d'autres de prévues. Je dois même aller en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, c'est pas la porte
à côté. Vous trouvez qu'elle est positive, cette campagne, pour l'instant ?
Écoutez, si on regarde les sondages, on est soit deuxième, soit troisième. Ce qui, évidemment, n'est pas une bonne position, puisque nous étions premiers il n'y a pas si longtemps. Ça dépend. Vous allez avoir des études qui vont arriver dans les jours à venir.
Qui font que Macron et
François Fillon se rapprochent. La campagne est difficile, hein. C'est pas un lit de rose. On n'est pas parti comme ça, où tout se déroule bien comme il y a deux mois. On a vécu des turbulences énormes. Donc il faut se bagarrer. Rappelez-vous la campagne de 2002. Moi, je l'ai faite avec, sous la direction d'ailleurs de Patrick Stefanini, avec Jacques Chirac. On n'était pas nombreux, hein. Quand on passait devant le QG de Lionel Jospin, un peu plus loin dans le 10e arrondissement, il y avait beaucoup de berlines. Devant le QG de Chirac, il n'y avait personne. Et puis Jacques Chirac a été qualifié pour le deuxième tour, et puis il a gagné au deuxième tour en 2002.
Là, je vous demandais si les amis de Nicolas Sarkozy ne prenaient pas trop de place, parce que on a noté la semaine dernière le passage du candidat Fillon chez Nicolas Sarkozy, une espèce d'hommage assez inattendu, parce qu'on n'avait pas compris qu'entre les deux hommes, tout allait aussi bien. C'était mercredi dernier, et dès le soir, mercredi soir, à Compiègne, on a compris que Nicolas Sarkozy était un peu devenu l'inspirateur de François Fillon. On écoute François Fillon.
Si les nouveaux délinquants mineurs se conduisent comme des adultes délinquants, alors il convient de les traiter comme tels en supprimant l'excuse de minorité et en abaissant la majorité pénale à 16 ans.
Ça vous convient, ce tour que prend la campagne de François Fillon ?
Écoutez, deux choses, si vous le permettez. D'abord, François Fillon va rencontrer dans 48 heures Alain Juppé à Paris. Ils se sont vus à Bordeaux il y a peu de temps. Ils se voient cette semaine à Paris. Donc Alain Juppé voit toutes celles et ceux qui ont mené campagne dans les primaires. Dans le comité politique des primaires, nous sommes avec Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson, etc. La synthèse, il doit la faire. Ce matin, vos confrères du Parisien et du Figaro publient les propositions de François Fillon sur la santé, qu'il va le développer avec d'autres candidats aujourd'hui devant les cadres de la Mutualité française. Quand on est candidat de deuxième tour, enfin de troisième tour même, puisqu'on a eu les deux tours des primaires, il faut faire la synthèse. Donc il y a du Sarkozy, il y a du Juppé. Le programme santé a été modifié par Hervé Guémard, Jean Leonetti, Éric Woerth, donc un peu tout le monde a mis sa patte. François Fillon, s'il veut rassembler, il doit rassembler les idées, y compris celles des candidats avec lesquels il était en compétition dans les primaires.
La majorité pénale à 16 ans, vous, Dominique Bussereau,
Non, ça me choque pas, parce que quand je vois ce que je pouvais être comme ado de 16 ans et ce qu'on sont aujourd'hui les ados de 16 ans, il y a 60 ans qui sont écoulés, enfin pas tout à fait 60 ans, 50.
Vous étiez délinquant en 6 ans ?
Non, mais je veux dire, voilà, on était des gentils garçons. Aujourd'hui, les ados, c'est
des gentils garçons à 16 ans.
Les ados peuvent avoir la force physique d'un adulte. Hein, donc voilà, donc dire la majorité pénale quand on...
Ça n'a rien changé
quand,
en 60 ans.
Quand on fait une grosse bêtise, je pense que c'est une mesure normale. Voilà, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je l'accepte.
Il faut faire la synthèse, vous dites, pour François Fillon, qui disait il y a quelques semaines, j'ai été élu sur un programme, je vois pas de raison d'en changer.
Attendez, il est élu sur un programme, donc il a une légitimité sur son programme. Enfin, il vous a pas échappé qu'il
n'a pas
fait...
campagne sur un autre.
Il vous a pas échappé qu'il a fait 100%, il n'a pas fait 100% des voix au deuxième tour de la primaire. Qu'il y a eu 34% des voix et quelques pour Alain Juppé, donc faut tenir compte des idées d'Alain Juppé, faut tenir compte des idées de Sarkozy, faut tenir compte des idées de Le Maire, faut tenir compte des idées en matière d'écologie de Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà, après, c'est à lui de faire la synthèse, c'est lui le candidat, c'est pas nous.
Alors, vous avez un candidat qui fait parler en France et qui fait aussi parler à l'étranger. Écoutez ce qu'en dit Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères.
C'est une situation délétère. Je peux vous dire qu'on m'en a parlé aussi. On m'en parle dans les autres pays. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? François Fillon, ancien Premier ministre, pourquoi a-t-il menti ? Pourquoi a-t-il caché ? Dissimulé ? Et ça provoque une grande surprise et en même temps une inquiétude.
Voilà, pour l'image de la France, que nous dit Jean-Marc Ayrault, c'est que pour l'image de la France, bah,
écoutez,
en ce moment,
d'abord, moi, j'ai une bonne image de Jean-Marc Ayrault, et je trouve que sa décision de mettre fin à sa vie politique, c'est aussi un peu la mienne, parce que moi, je ne me représente pas législative, mais je continuerai de présider mon département. Je pense que c'est quelqu'un de bien, Jean-Marc Ayrault. Donc là, il sort un peu de sa réserve de ministre des Affaires étrangères.
Il témoigne. Il dit, les étrangers m'en parlent, ils comprennent pas trop ce qui se passe.
Oui, écoutez, c'est vraisemblable, parce que là, la vie publique en France n'est pas la même qu'en Allemagne ou qu'en Suède, etc. Mais bon, voilà, je trouve que Jean-Marc Ayrault...
Il y a eu beaucoup de papiers dans les journaux européens.
Bien sûr, je lis la presse européenne, en particulier la presse allemande. Je
très
vois bien ce qui est écrit.
Sur, François Fillon, les mensonges de François Fillon,
oui,
les cachotteries de François Fillon.
Savez, moi, il y a aussi des choses qui me choquent quand je vois actuellement l'attitude de Madame le maire de Rome, etc. Voilà, on a tous des choses qui nous choquent dans les pays européens qui nous entourent. Je trouve que Jean-Marc Ayrault dépasse un peu les bornes de sa mission de ministre des Affaires étrangères en disant cela. Ça n'empêche pas le respect que j'ai pour lui.
Donc il faut pas, s'il y a un trouble à l'étranger, il faut faire semblant de ne pas le voir.
A priori, ce ne sont pas les Allemands, ni les Espagnols, ni les Lettons, ni les Estoniens qui vont voter à l'élection présidentielle française.
On le confirme.
Du côté de Dominique Bussereau, qu'on retrouve dans un instant pour la suite de l'interview. L'info, 8h40, c'est Victor Maté.
Les 600 000 canards encore présents dans les Landes vont être abattus, confirmation ce matin de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui sera en visite à Mont-de-Marsan cet après-midi pour présenter son nouveau plan d'éradication de la grippe aviaire. Un projet rebâti, enrichi, amélioré, c'est François Fillon lui-même qui le dit. Le candidat de la droite présente une nouvelle version de son plan santé. Quatre autres prétendants à l'Élysée s'expriment sur le même thème ce matin depuis le Palais Brongniart, place de la Bourse à Paris. Des ordinateurs saisis, perquisition hier au siège du Front National à Nanterre. C'est l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'assistants FN au Parlement européen. Une année noire pour le tourisme à Paris et en Ile-de-France. Le constat du président du comité régional du tourisme. Après les attentats de novembre 2015, la capitale a perdu 1,5 million de touristes en 2016. Et puis Bernard Cazeneuve appelle la Chine à s'ouvrir aux produits français et européens. Le Premier ministre est arrivé tôt ce matin à Pékin pour une visite officielle de 3 jours.
France Info. Dominique Bussereau est l'invité politique de France Info pour commenter notamment les propositions de François Fillon sur la majorité pénale, sur son projet pour la santé, pas seulement Gilles Bernstein.
Non, sur la TVA aussi. Depuis hier, on entend une rumeur selon laquelle François Fillon abandonnerait ce qui était à la base de son projet, à savoir l'augmentation du taux de TVA, en tout cas pour le taux intermédiaire qui concerne beaucoup de produits. Alors deux questions, est-ce que vous confirmez cet abandon, est-ce que vous le souhaitez ?
Écoutez, je ne le confirme pas parce que je sais que dans le programme de la semaine de François Fillon, il doit procéder à un certain nombre d'arbitrages. Il a procédé à ce sur la santé, puisque vos confrères de la presse écrite dévoilent ce qui sera dit tout à l'heure au Palais Brongniart, mais je ne connais pas encore les arbitrages.
Est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce que ce serait une bonne idée de renoncer à ça ? On avait dit que c'était une mesure un peu dure.
C'est pas une mesure assez dure. Enfin, on a besoin de trouver. D'ailleurs, Emmanuel Macron, je crois, dit la même chose. 60 milliards d'argent public. Alors, il y a une part sur le système de santé. Il y a une part où les collectivités.
C'est 100 milliards pour François Fillon.
Oui, pardonnez-moi, 100 milliards. J'étais au chiffre de Monsieur Macron, qui est de 60, en effet. Donc, il y a une part sur le système de santé. C'est la réponse de ce matin. Il y a une part sur des efforts que pourraient faire les collectivités locales. Mais en conséquence d'efforts de l'État, en particulier qui arrêterait de nous imposer des normes chaque année supplémentaires qui coûtent entre 600 millions et 1 milliard d'euros chaque année aux collectivités locales, et il y a un effort de l'État. Voilà. Le financement, moi je pense qu'une augmentation légère de TVA n'est pas inenvisageable. Donc j'attends l'arbitrage de François Fillon, mais moi ça ne me choque pas d'augmenter légèrement la TVA.
Mais de toutes les façons, elle augmenterait sur ce qu'on appelle le taux normal, 20-22. Et là, ce qui est en discussion visiblement, c'est de ne pas l'augmenter, contrairement aux engagements de François Fillon, dans le taux intermédiaire 10-12.
Franchement,
mais ce qu'on retient de ce que vous
dites,
je ne
veux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas l'arbitrage qu'a pris François Fillon.
Ce qu'on retient de ce que vous dites, c'est que ça discute. C'est que c'est en discussion.
Vous savez, c'est une possibilité. Un candidat, je le disais tout à l'heure, il a son programme de la primaire, il a les programmes de ses petits camarades avec lesquels il fait une synthèse, et lui-même a des arbitrages. Donc je sais que cette semaine,
il y a des arbitrages.
Par exemple,
nous avons
travaillé sous l'autorité de Gérard Larcher avec François Baroin, le président de l'AMF, et Philippe Richert, le président des régions, sur l'avenir des collectivités territoriales. Moi, je préside les départements de France. Qu'est-ce qu'on fait des départements? Comment on organise? Est-ce qu'on veut plus décentralisateurs? Donc, on a, nous, tous les trois, établi des propositions et on les soumet à l'arbitrage du candidat.
Dominique Bussereau, il y a un mois, il y avait un François Fillon fort, triomphal, qui disait « Je ne toucherai à rien du projet qui a convaincu les Français, qui m'a permis de faire 45% au premier tour. » Un mois et des difficultés judiciaires après, on retouche tous les points du projet.
C'est pas retoucher.
C'est pas d'un coup, il écoute Bruno Le Maire.
C'est quand même à peu près normal quand on est un homme public de ne pas être autiste et de voir que si.
C'est l'agenda qui est étonnant.
Que si. Non, mais attendez, il s'est exprimé. Il a fait un programme pour 4,5 millions de Français qui ont voté à la primaire. Là, on passe à 44 ou 45 millions de Français qui vont voter à l'élection présidentielle.
Il avait dit que c'était un programme pour.
Donc avoir modifié son programme si à certains moments ça choque. Les Français, ça me paraît pas étonnant.
Son programme,
ce qui serait dommage,
c'est qu'il ait dit l'inverse avant.
Ce qui serait dommage, c'est que si des mesures sont rejetées par les Français, qu'ils continuent de les présenter. Enfin, je pense que tout homme politique normalement constitué, c'est comme vous. Si vous lancez une émission qui a pas d'auditeur, au bout de quelques jours, vous allez l'arrêter. On est dans la même situation.
Certains aspects du programme ont choqué les Français.
Certains aspects du programme, par exemple sur la santé, l'histoire des mutuelles, du non-remboursement de petits risques, etc., ça en effet crée un débat. C'est-à-dire Alain Juppé, entre les deux tours de la primaire, vous en souvenez, qui avait levé le lièvre, et il a fallu retravailler le propos. Et c'est toute une série de gens, Woerth, Guémard, Leonetti et autres, qui l'ont fait à la demande de François Fillon.
Sur les fonctionnaires aussi, hein, ça avait choqué un peu.
Bah, si vous voulez, les fonctionnaires, ça dépend quoi? Ça dépend comment? En réalité, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux pendant un quinquennat aboutit à peu près à ceci.
Non, mais je
mets avec les collectivités territoriales.
Vous n'y arrivez pas, 150 000 fonctionnaires non remplacés en ne procédant pas au remplacement d'un départ à la retraite François Fillon va faire trois fois plus.
Je suis président d'une collectivité territoriale, je vois bien le rôle des fonctionnaires sur le terrain, en particulier des fonctionnaires qui gèrent nos prestations sociales, le RSA, la PA pour les personnes âgées, etc. Donc on n'est pas en guerre contre la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou nationale. Ce que j'ai constaté aussi pendant les 9 ans que j'ai passé au gouvernement, c'est l'hyper-densité des administrations centrales parisiennes par rapport au manque de gens sur le terrain. Donc, dire qu'on réorganise la machine administrative française, qu'on continue de décentraliser et qu'on donne encore plus de pouvoir aux collectivités territoriales et que l'État se concentre sur ses missions régaliennes et sur le système de santé, ça m'apparaît un bon programme.
Et donc, par exemple, supprimer 500 000, ça vous paraît bien?
Écoutez, on verra en fin de quinquennat ce qu'on sera capable de faire.
Non, mais
attendez, je suis quelqu'un qui a exercé des fonctions gouvernementales. Je suis parlementaire, en tout cas jusqu'au mois de juin. Donc, il y a toujours les objectifs. Puis ensuite, on fait ce qui est possible et ce que la conjoncture nous permet. Le gouvernement actuel a relancé, à juste titre, une politique de recrutement dans la police, la gendarmerie et nos armées, parce que notre pays était soumis à une guerre terroriste. Il ne l'avait pas prévu au départ. Il a tenu compte de la situation. Et pardonnez-moi de vous dire, il a bien fait.
Mais vous, qui présidez le conseil général départemental, des Charentes-Maritimes...
De la Charente-Maritime.
Nous n'avons
qu'un fleuve Charente.
Vous pouvez supprimer des fonctionnaires? Vous venez de dire l'inverse.
Je ne dis pas qu'on supprime des fonctionnaires, mais je dis qu'on essaye, dans la mesure du possible, de ne pas recruter quand il y a certains départs,
ce qui continue à une diminution globale du nombre de fonctionnaires. François Fillon.
Et je veux vous dire aussi une chose suivante, c'est que les collectivités, elles ont repris le boulot de l'État. Aujourd'hui, il y a plus de DDE, hein, direction départementale équipement. Vous, il y en a très très peu.
Non,
de
mais je comprends très bien. Mais ce qui veut dire que vous avez
besoin des collèges. Voilà, donc, si vous voulez, les collectivités territoriales. Donc, je veux dire, l'État dans un département de France aujourd'hui, hein, en Charente-Maritime ou ailleurs, l'État, il a encore quelques directions autour du préfet. Mais le gros travail de présence auprès des populations, aujourd'hui, est fait par les collectivités territoriales. On l'a vu d'ailleurs, tristement, à un moment de Cynthia.
Donc, c'est pas gagné votre histoire.
Au moment
histoire.
De Cynthia, on s'est aperçu que l'État était formidable.
Alors, Cynthia, tempête qui a causé...
La grande tempête
causé,
de 2010, qui a causé 50 morts en Vendée, 12 chez nous. On s'est aperçu que l'État était formidable pour envoyer des pompiers, la sécurité civile, les hélicos, etc. Mais quand il s'agissait de reconstruire, de leur donner des réfrigérateurs aux gens, de leur donner de l'argent liquide, etc., ils savaient plus faire. Donc ça, c'est le rôle des collectivités territoriales. Voilà. Et moi, je souhaite une république, et ça, c'est pas de gauche ou de droite, je souhaite une république décentralisée.
Alors, au fur et à mesure des jours qui passent, François Fillon est amené à préciser 500 000 fonctionnaires. Est-ce qu'on va les supprimer partout? Eh bien non, c'est ce qu'il a expliqué à La Réunion il y a 8 jours, écoutez.
Tant que la situation de l'emploi ne sera pas meilleure, tant que le niveau du chômage sera aussi critique, les Outre-mer ne seront pas concernés par le plan de réduction des effectifs de la fonction publique que je veux mettre en œuvre en métropole.
Mais il y a toujours des petits ajouts qui... Alors là non, parce qu'il y a trop de chômage, alors peut-être ailleurs non plus parce qu'il y a trop... Donc du coup, on
vous
se
savez,
dit,
vous
c'est
savez,
quand même
la...
un projet... moins bien pensé et finalisé qu'on nous l'avait dit lors de la primaire.
Vous savez, la Réunion, c'est un département, c'est le département de France, présidé par Nassima Dindar, où on a le plus gros taux de RSA. Hein. Donc c'est un département en réelle difficulté économique et en réelle difficulté, même s'il a des réussites formidables en matière maritime, en matière d'énergie nouvelle, etc. On a un autre cas, la Guyane, hein. Il y a la face merveilleuse du site de lancement de Kourou. Et puis, il y a un département qui est aujourd'hui quasiment en faillite sur le plan social. Donc, il est légitime que, dans le rééquilibrage que nous devons faire de les richesses vis-à-vis de nos collectivités ultramarines, elles aient un traitement différent par solidarité.
Mais d'accord, mais on comprend tout ça. Mais donc, c'est pas plus simple de dire, bah non, on n'arrivera pas.
On n'arrivera pas, oui.
500 000 fonctionnaires.
Eh bien, je vais vous répondre. Vous verrez bien.
Vous verrez bien.
Et moi aussi.
On verra bien. Donc, si... L'engagement de François Fillon de supprimer 500 000 postes fonctionnaires.
C'est un objectif. Je souhaite qu'il le réussisse.
Et quand on dit vous verrez bien, ça veut dire sans doute.
Ça veut dire que je souhaite qu'il le réussisse.
Oui, vous le souhaitez. Oui,
à titre personnel.
500 000 fonctionnaires, voilà. C'est un chiffre.
Non, mais
en tout cas,
je m'engage personnellement. Je ne vous engage pas tous les trois. C'est ça que je voulais dire.
Ah, non, on
Dominique Bussereau, vous êtes avec nous jusqu'à 9h, député de la Charente-Maritime. On fait la correction et on fait un tour par l'info. Aussi Victor Maté à 8h50.
Une attaque mortelle de requins ce matin à La Réunion. C'est la 8e depuis 2011. La dernière remontée à près de 2 ans. La victime est un jeune bodyboarder. Un ancien Premier ministre qui tourne la page. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, va mettre fin à sa carrière d'élu. Pas de nouvelle candidature donc à l'avenir, annonce dans le journal Ouest France. À 66 ans, l'ancien député maire de Nantes veut, dit-il, transmettre à d'autres générations. Ce nouveau plan pour tenter d'éradiquer la grippe aviaire, le ministre de l'Agriculture annonce l'abattage des 600 000 canards restants dans les Landes. Stéphane Le Foll en déplacement cet après-midi dans le département, plus précisément à Mont-de-Marsan. Aux États-Unis, le général McMaster est le nouveau conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump après la démission forcée de Michael Flynn. McMaster, 54 ans, vétéran d'Irak ou encore d'Afghanistan, est réputé pour son esprit critique et sa grande liberté de parole. Et puis Marseille, Paris et Bordeaux, le podium des villes les plus embouteillées d'après le fabricant de GPS TomTom. 35 à 40 minutes y sont perdues chaque jour dans les bouchons.
France Info. Dominique Bussereau avec nous jusqu'à 9h.
Vous venez d'entendre qu'il faut garder les fonctionnaires à La Réunion.
Dites-le à François. Il a rebondi sur l'info avec Gilles Bornstein, Jean-Michel Apathy.
Et donc François Bayrou vient de rompre le suspense. Nous écoutons François Bayrou. On l'écoute.
Pour vous dire ceci, qui m'engage et qui va, pour beaucoup d'entre vous, vous engager aussi. Je suis candidat à la présidence de la République.
C'est en quelle année, Jean-Michel Apathy?
C'est 2007.
Voilà
2007. Disais... Est-ce qu'il va la refaire la prévue ce coup-ci?
Écoutez, je vais pas dire. Moi, il y a 2 mois, je faisais campagne avec François Bayrou pour Alain Juppé. C'est un ami, je le connais depuis 30 ans. Nous avons été élus jeunes députés ensemble. Donc, je vais pas vous dire du mal de François Bayrou.
Ah, mais c'est pas
je
notre
sais
objectif.
Pas ce qu'il va faire. Le connaissant, je me dis que ça doit le chatouiller. Mais ce que ça le chatouille, ça le gratouille, vous le saurez demain à 16h30, le suspense intenable s'achèvera.
Bonne ou mauvaise nouvelle s'il est candidat ? Parce qu'il est très probable qu'il soit
très
candidat.
Très franchement, je pense qu'il prendra quelques voix centristes à Emmanuel Macron, peut-être aussi quelques-unes chez nous, mais plus chez Emmanuel Macron que chez nous.
Donc en fait, on peut dire que François Bayrou aidera François Fillon.
Écoutez, c'est pas vraiment son état d'esprit, si j'ai bien compris.
Mais de fait, c'est ça.
Mais bon, voilà. Ceci étant, je vous avoue que c'est... Enfin, je sais pas ce qu'il fera, hein, on le saura demain. S'il est candidat, c'est compliqué pour lui, parce qu'il avait auparavant un boulevard centriste avec vue sur les Pyrénées. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'Emmanuel Macron a pris une partie du stock centriste dans notre pays.
Vous trouvez ça sérieux, vous, de partir comme ça le 25 février.
Alors vous savez bien, Madame Ramayad qui cherche des partenaires, Madame Michèle Alliot-Marie qui cherche des parrainages. Voilà, c'est.
Vous les mettez à la même hauteur.
Je les mets pas à la même hauteur, mais je veux dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui. J'entendais un sujet tout à l'heure sur une autre antenne que la vôtre qui font la queue devant les mairies, qui attendent les maires devant leur voiture pour leur demander les parrainages. Voilà, tout ça est un petit peu, certes, un peu navrant. Mais c'est comme ça que se passent les élections présidentielles dans notre pays.
Réponse demain pour François Bayrou.
Réponse demain.
16h30, oui.
La colonisation en Algérie, crime contre l'humanité, comme l'a dit Emmanuel Macron, ou pas ?
Non, je n'ai pas aimé ce mot. D'ailleurs, il l'a corrigé. Il a parlé ensuite de crime contre l'humain.
A changé la formule.
Oui, ce qui n'est pas la même chose. Non, c'est une formule maladroite. Enfin, crime contre l'humanité, on a tous en tête ce que ça peut représenter. La colonisation, qu'est-ce que ça veut dire, la colonisation ? La Savoie est arrivé dans l'ensemble français après la Réunion, dont nous parlions à l'instant. Idem le comté de Nice. Peut-on considérer que la Savoie et le comté de Nice ont été victimes d'une forme de colonisation? Voilà, donc
pas trouvé. Ils sont venus librement.
Les Corses sont pas venus librement. Hein, c'est Gênes qui les a vendus.
Si vous parlez de la Savoie et du comté de Nice, ils se sont rattachés librement à la République française.
Ils sont rattachés librement à la République. Mais la Réunion est plus ancienne dans la République française. La Réunion, qui est un magnifique melting pot culturel, une réussite d'intégration de toute une série de gens venus de différents continents, et dans l'ensemble français depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle, pardonnez-moi, j'ai brutalement un trou de mémoire, voilà, parler à ces gens-là de colonisation et de crimes contre l'humanité, je trouve ça vraiment ridicule.
Donc
C'est dommage à part d'Emmanuel Macron, que pour le pariage, je trouve plutôt sympathique.
Vous avez été ministre de l'Agriculture.
Oui.
La décision est prise dans les Landes d'abattre 600 000 canards.
Oui, j'ai connu
l'ensemble
si vous voulez...
de.
Oui, j'ai connu la même crise que celle, la grippe aviaire, entre 2004 et 2007. Je profite d'ailleurs pour dire que l'agriculture française est en deuil cette semaine avec la disparition de Xavier Belin, quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Il n'y a pas 36 décisions à prendre. Hein. Dans ces cas-là, il faut éradiquer malheureusement les élevages, empêcher les transports, fermer les marchés, etc. C'est vrai que pour ces éleveurs du Lot-et-Garonne, du Gers, des Landes, etc., qui ont déjà subi d'autres crises de grippe aviaire, c'est terrible, quoi. Et en plus, vous savez que dans ces cas-là, on ferme les exportations. Par exemple, on ne peut plus exporter en Chine ou en Russie, etc. Et qu'après, il faut renégocier avec les pays pour réouvrir les exportations et que ça prend des mois. Donc il y a un moment conjoncturellement difficile. Et structurellement, très difficile après, en tout cas pour exporter.
Ça ajoute à la détresse du monde agricole.
Oui, c'est une
crises.
Oui, si vous voulez, c'est une détresse. D'abord, il y a la météo. Hein, on va avoir un été très difficile parce que nous avons un hiver extrêmement peu humide. Donc, on va avoir cet été des problèmes d'approvisionnement en eau dans beaucoup de régions de France, en particulier dans le sud de notre pays, mais pas seulement. Il y a des problèmes de prix du lait, il y a des problèmes de prix de la viande, etc. Voilà, j'espère que le Salon de l'Agriculture sera pas trop triste. Il va être endeuillé par la disparition du leader agricole Xavier Belin, mais il peut y avoir un climat un peu compliqué. Et je pense que les candidats à la présidentielle qui vont le visiter le ressentiront. Et j'espère qu'ils le ressentiront parce qu'il faut que les agriculteurs puissent exprimer leur message politique.
Vous l'avez dit, Dominique Bussereau, vous mettez un terme à votre carrière parlementaire.
Oui.
Qui a été votre premier mandat, c'est 86.
J'ai été en 86, mais j'ai été battu par Philippe Marchand, qui a ensuite été ministre intérieur de François Mitterrand en 88, et j'ai survenu en 93. Après, je suis passé par le gouvernement, mais j'aurais siégé un long moment à l'Assemblée.
À l'Assemblée.
Et ça va me faire un pincement au cœur de quitter cet hémicycle aujourd'hui et demain.
Je voudrais vous poser une question, donc en tant que parlementaire, vous connaissez le fonctionnement des assemblées. François Fillon a embauché sa fille Marie Fillon quand il était sénateur entre 2005 et 2006. Pourra-t-il dire m'aider à écrire un livre ? Ça s'appelle « La France peut supporter la vérité » qu'Albert Michel publiera en octobre 2006. Donc Marie Fillon a été payée sur les fonds du Sénat. pour aider son père à écrire un livre. Il a perçu des droits d'auteur, donc il s'est enrichi avec ce livre. Est-ce que des fonds parlementaires peuvent être dédiés à cet usage? Est-ce que cela vous a étonné, voire choqué?
Vous savez, il y a trois types d'hommes politiques qui écrivent des livres. Il y a ceux qui n'en écrivent pas une ligne, qui demandent à un de vos confrères de la presse écrite, ou pas seulement, de l'écrire à leur place. Il semble que ce soit le cas le plus général. Il y a des gens qui écrivent eux-mêmes. Par exemple, Jean-Pierre Soisson, qui écrit des livres historiques, j'ai beaucoup de livres, les écrit lui-même avec
j'ai
une
certaine manière. Vous ne répondiez pas à ma question.
Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui se font aider par leurs collaborateurs. Honnêtement, je ne trouve pas choquant qu'un homme politique qui vient à l'Assemblée pour représenter le pays, il n'est pas simplement le député d'environ 100 000, 110 000 habitants, il représente le pays. Tous les parlementaires portent la légitimité nationale, travaille sur un livre et écrive un livre et fasse travailler ses collaborateurs pour écrire un livre.
Ses collaborateurs parlementaires pour écrire un livre.
S'il faisait un livre de cuisine ou un nouvel épisode de Lucky Luke, on pourrait se poser une question. S'il écrit un livre politique, je ne suis pas choqué.
Donc les fonds de l'Assemblée ou du Sénat peuvent être utilisés
à l'expression du suffrage
universel. À des fins personnelles, finalement.
Non, servent à l'expression du suffrage universel. Vous savez, je connais peu d'hommes politiques qui se sont enrichis par des bouquins politiques.
Vous avez une conception assez large de l'utilisation des fonds des assemblées.
Non, parce que je suis très attaché à l'éthique. Mais je pense qu'écrire un livre politique pour un homme politique, c'est pas choquant. S'il écrivait... Vous voyez, Jean-Pierre Soisson vient de sortir un bouquin sur les romans policiers d'Edgar Faure.
Edgar Faure
a écrit des romans policiers, c'était différent, mais quand Edgar Faure a écrit des livres politiques, c'était pas choquant qu'il le fait pendant qu'il était parlementaire.
Merci Dominique Bussereau d'avoir accepté l'invitation de France Info.